Bonjour, nous sommes le lundi 22 octobre, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et comme tous les 15 jours, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintrice, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Eh bien, c'est déjà le troisième épisode de la troisième saison de La Relève, l'émission des premières fois. Aujourd'hui, on va parler d'une enquête journalistique au pays des AOC et malheureusement du RSA. Bonjour Ixelle Delaporte, vous êtes journaliste à l'Humanité, c'est ça ?
Oui, bonjour.
Vous publiez aujourd'hui les raisins, oh là, ça va être compliqué pour moi, les raisins de la misère, une enquête qui aurait pu aussi s'appeler, je pense, les seigneurs de la vigne avec un A pour seigneur.
Oui, pourquoi pas, mais...
Non, votre titre est très bien, mais c'est un peu l'idée. Je vais vous demander, vous aimez Charles Aznavour ?
Pas particulièrement, non.
À cause de ça.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Je voulais vous faire écouter cet extrait avec ce refrain qui dit « Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil » et j'ai l'impression que votre livre, c'est le contre-exemple parfait de ça.
Oui, c'est vrai qu'il fait plutôt beau dans le sud-ouest.
Alors oui, on va expliquer. Votre livre est une enquête qui se passe dans un endroit qui s'appelle le couloir de la misère.
De la pauvreté.
Oui, pardon. De la pauvreté, qui est donc une région du Bordelais.
À proximité
des très grands châteaux où l'on trouve beaucoup de personnes en situation précaire.
Tout à fait, c'est ça. Le couloir de la pauvreté, effectivement, qui est dans un territoire qu'on peut résumer au Bordelais, en fait.
Comment vous avez eu connaissance de ce couloir ?
Mais ce couloir, je l'ai découvert. Et non, pas du tout. C'est une question qui revient souvent. Effectivement, je pense qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui ne soit pas du coin pour pouvoir faire ce sujet, parce que c'est un sujet qui est délicat et complexe et qui touche au vin. Et le vin, on n'y touche pas trop quand on est du Bordelais. Donc moi, je suis arrivée de l'extérieur un peu par hasard, d'une certaine manière, parce que j'ai découvert une note de l'INSEE, qui est la note 194, qui détaille l'existence de ce couloir. Donc d'un point de vue statistique, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui touchent le RSA, plus de personnes pauvres et précaires qui vivent dans ce couloir, qui est tout petit, qui n'est pas immense, qui fait 200 km de long.
Une trentaine de kilomètres de large, si je me souviens bien.
C'est ça, une trentaine de kilomètres de large,
et
qui effectivement, qui passe par tous les lieux où se trouvent les grands crus, les châteaux. Et j'y suis allée parce que je voulais savoir comment vivaient ces gens-là. Et c'est une fois que je suis arrivée sur place que je me suis rendu compte que, en fait, c'était très beau, très joli, très charmant, qu'il y avait des grands châteaux. Et là, j'ai commencé à réfléchir un peu aux interactions entre les châteaux et la pauvreté.
Avant ça, vous aviez essentiellement écrit de la presse. Vous travailliez déjà sur la pauvreté à ce moment-là ?
À ce moment-là, je commençais à travailler sur la pauvreté. Je travaillais sur les quartiers populaires, mais bon, c'est assez proche.
En région parisienne ?
Partout en France. Et je commençais à m'intéresser justement à toutes ces zones qu'on appelle périurbaines et rurales. Et en m'intéressant à ça, je suis tombée effectivement sur cette note et j'ai découvert ce couloir de la pauvreté qui est vraiment unique en France, parce qu'il n'y a aucun autre lieu qui s'appelle le couloir de la pauvreté en France.
Il n'y en a aucun autre qui a été identifié en tant que tel par l'INSEE.
Oui, c'est ça.
Moi, il me semble qu'il y avait eu un article dans le magazine du Monde il y a quelques années sur le sujet, mais je crois que je n'ai jamais rien lu d'autre. Après, je ne lis pas tout.
Je ne crois pas. Le premier reportage qui a été fait là-dessus, c'est le reportage que j'ai fait pour mon journal, L'Humanité.
On peut le citer.
Ouais, et c'est à partir de là, en fait, qu'a commencé une réflexion sur... Les liens qu'il pouvait y avoir entre les châteaux, la très grande richesse et la très grande pauvreté.
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cette pauvreté-là, mis à part qu'elle est à côté des châteaux, comme vous venez de le dire ? Ou est-ce que ce qui est choquant, finalement, c'est qu'elle avoisine avec le luxe, le glamour, comme vous le dites à plusieurs reprises ?
En fait, je pense que pour les gens qui vivent là-bas, c'est pas tellement choquant, parce qu'ils s'en rendent pas compte, en fait. Ils s'en rendent pas compte parce que, finalement, les châteaux, c'est avant tout leurs employeurs. Et c'est une manière pour eux de pouvoir subvenir à leurs besoins. La vigne, c'est un des plus importants débouchés, en fait, dans le Bordelais. Surtout pour des gens qui n'ont pas forcément fait d'études ou qui n'ont pas forcément pu partir. Donc, il y a une pauvreté locale qui est très très forte. Et il y a aussi bah, toute la pauvreté migrante en fait, avec toutes ces personnes qui viennent des pays étrangers, notamment d'Espagne, du Portugal, à partir de la crise, et puis bah, les Marocains.
Il y a un effet de contraste qui est très fort. En vous lisant, on a un peu l'impression que c'est comme s'il y avait des bidonvilles rue La Boétie à deux pas des Champs-Élysées. Il y a vraiment cet effet contraste-là qu'on a du mal à imaginer. On a un peu une vision de la géographie où il y a des zones pauvres, des zones riches, et elles sont éloignées, ou en tout cas, elles ne communiquent pas. Là, elles sont vraiment...
Elles sont imbriquées, elles sont, je pense, très visibles à certains moments. Par exemple, au moment des vendanges, il y a une concentration. Je prends l'exemple de Pauillac, qui est une ville qui a beaucoup de grands crus, c'est-à-dire de grands châteaux très reconnus, comme Mouton-Rothschild, Lafitte-Rothschild, Château-Latour. Donc, c'est des châteaux qui appartiennent quand même à des milliardaires, notamment Château Latour qui appartient à Pinault. Tous ces châteaux-là, finalement, effectivement, ils sont très beaux, ils datent du XVIIe siècle, ils sont magnifiques. Et Pauillac, par exemple, au moment des vendanges, il n'est pas du tout rare de voir des jeunes fouiller les poubelles la nuit quand les touristes sont partis. Donc, elle peut être visible pour peu qu'on accepte de l'observer au bon moment, quoi. C'est pas forcément quelque chose en tant que touriste qui va sauter aux yeux, mais évidemment quand on passe à Pauillac, on se rend compte que tous les magasins sont fermés, par exemple, que la ville se meurt.
C'est là à Pauillac où on a inventé les fausses vitrines, le village Potemkin, avec on fait croire qu'il se passe quelque chose dans les magasins pour les touristes qui passent. Voilà, la vitrophanie, j'ai oublié le mot.
Ouais, c'est une manière de cacher la misère quelque part et de dire bon, il y a rien, mais on va imaginer qu'il y a quelque chose. Mais c'est assez triste en fait à voir dans les ruelles de Pauillac, ça.
Concrètement, vous y avez passé combien de temps là-bas ?
Concrètement, c'est une enquête qui m'a pris un peu plus d'un an et demi.
Donc vous y étiez en permanence pendant un an et demi ou vous y alliez régulièrement ?
Non, j'y allais régulièrement. J'ai fait des allers-retours, j'ai pris le train, une voiture de location et puis je faisais le tour, je choisissais des lieux où je passais du temps. Parce qu'il n'y a pas de secret en fait, pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe, il faut passer du temps et surtout pour rencontrer les gens, il faut passer du temps. Et les rencontres, évidemment, je les ai cherchées, je les ai provoquées. Mais ces rencontres-là, elles sont possibles que quand on y est presque jour et nuit, d'une certaine manière. Parce qu'il faut bien observer ce qui s'y passe, comment les gens consomment, comment les gens bougent dans la ville, qu'est-ce qu'ils font.
C'était un peu ma question d'après, mais je la pose quand même. C'est justement comment vous avez travaillé, c'est une rencontre qui en crée une autre, c'est vous croisez quelqu'un qui vous dit vous devriez aller voir ça se passe comment ?
Oui, bah par exemple, au tout début du livre, je raconte comment je prends en stop Pierrot. Et c'est vrai qu'en règle générale, je ne prends pas forcément, quand je suis toute seule, des gens en stop. Mais là, dans cette situation, on est ouvert à la rencontre. On a envie de savoir comment les gens vivent. Et puis ce Pierrot qui était au bord de la route, là, avec son sac, ben, en fait, je voyais bien qu'il était en galère. Donc je me suis arrêtée pour le prendre en stop. Et puis, très, très... Peut-être pas du hasard, mais en tout cas, il a commencé à me raconter qu'il travaille dans les vignes et qu'il a été SDF pendant plusieurs mois dans une des villes à Prégnac. Et que voilà, lui, il a toujours bougé en fonction de là où il y avait du boulot et qu'il a fait 1000 boulots dans sa vie. Donc l'histoire d'une flexibilité...
Vous partez pour faire un reportage pour votre journal ou dès le début, vous savez que vous allez faire un livre ?
Non, pas du tout. Je ne savais pas du tout que j'allais faire un livre.
Alors, à quel moment vous l'avez su ? C'est quand vous avez vu que le sujet devenait trop important pour le journal, que vous aviez trop de chutes, entre guillemets. C'est pas très joli de dire ça comme ça.
Non, quand je suis rentrée, j'étais assez satisfaite en fait, du reportage que j'avais fait. J'avais un peu rempli la mission de ce pourquoi j'étais partie. Ça n'a pas percuté comme ça, en fait. Ça a pris plusieurs mois avant que ce sujet revienne dans ma tête régulièrement.
Vous repensiez aux gens que vous aviez rencontrés.
Oui, je repensais à ce sujet. Je repensais aussi, parce que ce contraste entre les châteaux et la pauvreté, il n'est pas si évident. C'est-à-dire que il faut prendre un peu le temps, il faut prendre du recul pour se rendre compte que finalement, ces châteaux nourrissent les gens qui vivent là et ces gens-là ont besoin de ces châteaux et que c'est un peu imbriqué et que c'est compliqué de sortir de cette économie-là dans ce territoire-là. Mais pour arriver à ça, il fallait du temps, je pense, pour vraiment arriver à percuter. Et puis je crois, un jour, j'ai commencé à réfléchir à quel point point la carte des grands crus et la carte de la pauvreté étaient symétriques, en fait, à quel point elles se confondaient. Et à partir de là, je me suis dit, bon, en fait, cette histoire-là, elle ne peut pas se résumer à un reportage de quelques pages. Il faut que ce soit un livre, parce que je n'arriverai pas à tout expliquer en quelques lignes, quoi.
Et l'idée de faire des portraits, parce que votre livre est finalement une succession de rencontres, de portraits, d'instantanés, ça, c'est venu assez simplement ou ça a été un... Vous avez essayé d'autres choses avant de trouver la forme ?
Je suis partie sans idée préconçue sur la forme. Ce que je voulais surtout pas, c'est faire un empilement de portraits. Donc le livre, j'espère, n'est pas que un empilement de portraits, mais justement, le livre permet d'embrasser toutes les problématiques qui entourent, ouais, ces questions-là. Donc sinon je me sers des portraits et des gens que je rencontre, ouais, pour venir aborder une thématique qui serait peut-être soit celle des maladies liées à la vigne, ou par exemple les questions de les familles monoparentales qui vivent encore plus difficilement ces problèmes de pauvreté. Je viens raconter l'histoire d'un viticulteur qui lui ne fait ni du bio ni un vin très extraordinaire, mais qui vit dans ce milieu-là et qui raconte toutes les difficultés lui qu'il a à vivre de son métier. Donc à chaque fois, en fait, c'est lié à cette thématique, et j'espère que l'idée, c'est de pouvoir déployer tout un tas de thématiques et de sujets travers le livre.
C'est vrai que moi, j'ai retenu l'idée de la pauvreté pour cette émission, mais vous abordez aussi la question de la pollution, l'utilisation des intrants chimiques. Vous parlez aussi beaucoup de... Ça va me revenir de ce que je voulais dire. De la politique, et puis aussi des problèmes d'alcoolisme qu'on n'aborde pas, et qu'on en profite pour rappeler que le vin doit se boire avec modération. Par exemple, moi, j'ai appris quelque chose qui est fascinant, c'est que 10% de la population boit...
90% de l'alcool vendu.
C'est ça,
vendu.
C'est 10% boit, oui. 90%.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que les 9 dixièmes des gens ont une consommation raisonnable.
Oui.
Il y a des gens qui plongent complètement.
Complètement. Et c'est souvent des vins pas chers qui sont produits dans le Bordelais aussi. Hein.
Ou les fameux prémix dont vous parlez.
Ou les prémix pour les jeunes, ouais, qui sont attirés par le sucre.
Ce qui ressemble, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des châteaux et qu'il y a des gens qui travaillent à la vigne, mais ça fait vraiment penser à un système féodal. Ça, vous l'avez fait volontairement ou c'est vous aussi, c'est ce que vous avez découvert ?
Non, je vous avoue que le terme d'esclavage et de féodalité arrivait très très vite dans les conversations. C'est-à-dire que quand on commence à faire parler les gens sur leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, sur le fait qu'ils travaillent à 45 degrés l'été et qu'ils travaillent à moins 10 l'hiver, que c'est eux-mêmes qui doivent parfois s'acheter leurs propres protections, leurs propres bottes, leurs propres imperméables, leurs propres gants, que finalement ils sont quand même soumis à des contrats plutôt précaires, puisqu'on leur propose pas des CDI, hein, à ces gens-là, on leur propose d'intervenir dans la vigne deux jours par-ci, deux jours par-là, en fonction des besoins. Bon, mais tout ça, ça fait quand même que les personnes, elles sont quand même traitées pas particulièrement bien, en fait. Donc, au bout d'un moment, les gens finissaient par me dire « Oui, en fait, au final, finalement, peut-être qu'on est un peu au niveau féodal, ça ressemble au Moyen-Âge. » Il y avait des termes comme ça qui revenaient, que moi, j'ai pas voulu répercuter systématique dans le livre, parce que le but n'était pas de faire du misérabilisme. Mais
non, ça, on peut pas vous refaire ce reproche là, non.
En tout cas, l'idée, c'était vraiment c'était effectivement l'idée de plutôt de raconter des trajectoires de vie. Mais je vous avoue qu'effectivement, les gens systématiquement me parlaient de ces termes-là. Chris.
Je perds de l'énergie que je perds. à mes amours déçus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachume. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps menti entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter, toi.
C'était Christine and the Queen, enfin Chris avec Dab Funk, Diadam, dis-moi. C'est le truc imprononçable.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Ixchel Delaporte, je l'ai bien dit, pour son livre Les raisins de la misère, sous-titré une enquête sur la fâche cachée des châteaux bordelais. C'est pas fait pour dire, ça c'est fait pour être lu. Et on n'a pas encore cité votre éditeur, c'est La Brune Auerweg. On parlait avant la musique là, de la situation, et, situation paradoxale des gens qui sont pauvres dans une zone apparemment très glamour, très riche, très luxueuse. Moi, je vais vous demander, est-ce que c'est pas aussi leur problème, c'est qu'il n'y a plus que ça. C'est que vous expliquez à un moment qu'une raffinerie a fermé, c'est ce qu'on appelle l'économie de la rente. En économie, c'est quand tous ces pays, par exemple, qui ont du pétrole, qui sont très riches grâce au pétrole, qui n'arrivent pas à se développer, qui n'arrivent pas à en faire autre chose. Parce que eux, leur problème, c'est pas d'avoir du vin finalement et du vin qui se vend très bien.
C'est vrai que la ville de Pauillac n'a que ça, n'a que ce débouché. Auparavant, il y avait la Shell qui employait voilà. Quand même énormément de salariés et qui faisait vivre une grande partie de la ville et même de la région parce qu'il y avait beaucoup de sous-traitants. Et qu'à partir du moment où la Shell a fermé, ça a fait plonger la ville économiquement. Et effectivement, ne reste dans ces cas-là que la vigne. Et donc la vigne est toujours là. Donc c'est à la fois quelque chose, je pense, de rassurant pour les gens parce que d'une certaine manière, y a quelque chose, il y a un travail. Mais le problème, c'est la qualité du travail.
Et ça donne aussi un pouvoir à ceux qui emploient les gens dans la vigne, puisque
absolument.
Finalement, si eux ferment, il n'y a plus rien.
C'est ça. Eux, en fait, c'est des pourvoyeurs d'emplois très importants. Et effectivement, il faut un peu la pluie et le beau temps. Ils décident de ce qu'ils acceptent ou pas de donner en termes de qualité d'emploi. Et effectivement, la plupart du temps, c'est ce qu'on voit depuis la crise, depuis les années 2008, c'est l'apparition de prestataires de services qui, d'une
ça,
certaine...
Je veux bien que vous expliquiez, parce que c'est très intéressant. C'est comme dans tous les secteurs. Finalement, on externalise. Enfin,
totalement,
pour employer ces mots-là.
C'est ça. C'est-à-dire que comment faire pour que le coût du travail soit moins important ? C'est pas grave, on passe par des prestataires de services, des sous-traitants qui apportent clé en main le nombre d'ouvriers nécessaires pour un temps donné. Et effectivement, après, du coup, les châteaux, ils sont pas du tout au courant de comment ils sont logés, ces gens-là, de qu'est-ce qui leur arrive quand il y a des accidents du travail et de savoir s'ils sont payés en bonne et due forme ou pas. Et effectivement, l'exemple de Pauillac, mais on pourrait prendre aussi l'exemple de Saint-Émilion ou d'autres villages, c'est que la question du logement est centrale, parce que ces gens-là, en fait, ne sont absolument pas logés correctement.
En vous lisant, je repensais au fait qu'on a en tête, je suis peut-être particulier, mais je pense que beaucoup de monde est comme moi, on a en tête la misère au nord de la France,
oui,
à l'est de la France,
ouais.
En gros.
Le
langage
de Proussillon.
C'est l'idée, aussi. C'est l'idée un peu qui court. On n'a pas du tout idée que vers Bordeaux, sud-ouest, pas si loin de la mer, on vit dans de telles conditions. Et pourtant, on a. Vous décrivez des taudis incroyables.
Il y a des endroits qui ressemblent vraiment au quart monde. Il y a des personnes qui sont dans des villages, qui vivent dans des baraques qui ne sont pas du tout isolées, avec de la terre battue par terre, avec des gens qui se chauffent avec un poêle dans une seule pièce.
Des gens qui sortent pour aller prendre leur douche, qui sont obligés d'aller sortir de chez eux pour aller prendre, vous racontez une femme à la fin du livre,
absolument.
Qui va dehors prendre sa douche en été comme hiver.
Mais là,
on est lui faire, je crois, des travaux, donc c'était fini.
C'est ça. Elle a eu la chance entre guillemets, d'avoir sa maison qui a été incendiée, et ce qui a permis finalement de la repérer et de voir qu'en fait la maison était un taudis. L'histoire de ces familles, c'est des familles ce qu'on appelle les locaux, donc les gens qui vivent là depuis plusieurs générations et qui en fait héritent de maisons qui n'ont jamais vraiment été rénovées par manque d'argent, parce que ça, c'est toujours des métiers compliqués, les métiers de la vigne ou d'autres métiers. Il n'y a pas que les métiers de la vigne, mais il y a aussi des entreprises, par exemple, de mise en bouteille qui ont les mêmes mauvaises conditions. C'est des usines de conditionnement, de mise en bouteille qui ne payent pas non plus très très bien. Et donc du coup, ces familles-là, elles n'arrivent pas du tout à améliorer leurs conditions de vie. Ce qui fait que de génération en génération, ils se transmettent certes des maisons qui sont payées, mais des maisons qui ressemblent vraiment à rien. Donc cette famille-là, heureusement, a pu être aidée par la maison de l'habitat de Gironde, qui aide les gens à améliorer leur habitat et à faire que ce soit un petit peu moins des passoires thermiques, quoi.
Dans ce que vous racontez, on découvre aussi que les autorités savent. Il y a un rapport de la CAF, il y a un rapport de l'INSEE. Pourtant, il ne se passe pas grand-chose. Comment vous expliquez ça?
Les autorités le savent. Effectivement, le couloir de la pauvreté est un couloir qui a été détecté par les institutions elles-mêmes, par la CAF, par la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, par l'INSEE. Donc, la région est au courant de ce couloir. Ce couloir a été détecté en 2011, donc ça date déjà. Ce qui est très compliqué, c'est que ça ne peut pas relever que des communes ou de la région. Pour trouver une solution, il faudrait que l'État entre
en jeu
et surtout que par exemple il y ait un développement des transports. Ça, c'est extrêmement grave. Ce qu'on voit, c'est que entre les différentes villes, qui sont pas des villages mais quand même des villes, des petites villes, il n'y a pas de moyens de transport. Donc par exemple, les gens même qui pourraient travailler dans la vigne, dans tel ou tel château, à moins qu'on vienne les chercher en bus, ce qui peut arriver, ils n'ont pas de moyens de locomotion. Pour des gens qui ont envie de faire des formations, c'est extrêmement compliqué de trouver
Les témoignages que vous rapportez, c'est quelque chose qui revient souvent. Ils ne peuvent pas prendre le train.
Les services publics sont en très faible quantité, et quand il y en a, ils disparaissent en fait. Donc c'est extrêmement compliqué pour les gens qui sont sur place de pouvoir avoir accès à Bordeaux, par exemple, qui est la ville qui vraiment aspire toutes les énergies. C'est la ville où tout se passe, c'est la ville où il y a l'argent, c'est la ville où le logement fonctionne très très bien, il est très très cher. Et donc, d'ailleurs, la ville de Bordeaux elle-même, elle contribue à appauvrir les régions, les coins autour, en fait, parce que les gens sont poussés à l'extérieur, comme pour Paris. Les gens sont poussés dans les environs. Donc, les personnes qui sont déjà un petit peu fragiles et qui espèrent peut-être trouver une meilleure maison, un meilleur logement, ils se retrouvent dans des coins qui sont déjà eux-mêmes extrêmement mal dotés. Donc, ils ont du mal, évidemment, à s'en sortir dans ces coins-là.
Vous racontez l'histoire d'un couple comme ça, qui habitait à Bordeaux. Ils sont partis parce qu'ils avaient trouvé une petite maison. Ils espéraient s'en sortir.
C'est ça.
Puis en fait, ils se retrouvent piégés dans un endroit où elle ne trouve pas de travail.
C'est
la femme qui ne trouve pas de travail.
Absolument. Elle est aide-soignante, ou en tout cas aide à la personne.
Elle voudrait retourner à Bordeaux, mais elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas de voiture.
Elle ne peut pas, non, parce que les horaires de train ne sont pas suffisamment nombreux. Il n'y a pas suffisamment de trains qui passent, en fait, pour pouvoir aller travailler dans un hôpital, par exemple, ou chez des personnes âgées à Bordeaux. Donc, soit on a une voiture, et si on n'a pas de voiture, là vraiment on est en grande difficulté.
Puisque vous travaillez sur la pauvreté, je sais pas comment dire ça, j'ai l'impression qu'on trouve les mêmes profils que partout chez ces personnes-là. Il y a beaucoup de familles monoparentales, vous le disiez tout à l'heure, mais c'est frappant quand on lit des femmes seules qui élèvent leurs enfants. On a des immigrés, on a des tziganes, c'est vraiment des populations particulières. C'est ceux que vous croisez partout dans tous vos reportages.
En fait, je dirais que c'est une sorte de concentré, en fait, de ce qu'on peut trouver à différents endroits, sur différents territoires. territoires en France. Là, on a un concentré de pauvreté. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que raconte le couloir. Et d'ailleurs, le couloir lui-même, en termes statistiques, ne prend pas forcément en compte toute cette misère étrangère qui arrive. Donc, je dirais que le couloir lui-même sous-estime la quantité de personnes qui sont en difficulté. Mais
parce que ces gens-là ne sont pas enregistrés finalement.
Et non, c'est ça, c'est des gens qui sont illégaux, qui arrivent, qui ne sont pas forcément enregistrés. Alors les Espagnols, les jeunes Espagnols, Italiens, Portugais, oui, parce qu'ils font partie de l'Union Européenne, donc ils ont la possibilité de travailler. Mais pour ce qui concerne les Marocains, les Sahraouis, les Latino-Américains, les Roumains, toutes ces personnes-là, elles sont pas forcément enregistrées et elles passent à travers les mailles du filet de la protection sociale. Et du coup, effectivement, je pense que le couloir lui-même est sous-représenté. Alors, effectivement, la question des saisonniers, elle n'est pas propre au Bordelais. Il y a plein d'endroits en France où il y a des saisonniers. Mais ce qui est très intéressant dans ce territoire, c'est justement qu'il y a des milliards qui sont générés par l'argent du vin, que c'est l'image du Bordelais qui est véhiculée, elle est absolument fabuleuse. C'est, on ne jure que par le vin rouge en Chine, à qui on vend, aux Américains, à qui on vend le plus, on exporte le plus de vin. Et justement, dans ce territoire-là, c'est là qu'on trouve le plus de pauvreté. Moi, c'est ça qui m'impacte le plus sur ce territoire-là. C'est pour ça que j'ai voulu en faire un livre, parce que je ne connais ça nulle part ailleurs en France.
Je voudrais juste ajouter une chose, parce qu'on pourrait avoir les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le livre et auquel je conseille de lire, donc Les raisins de la misère. Je redonne votre nom, Iskel de la Porte, et c'est donc à la Bruno Rouergue. Il y a aussi des viticulteurs, des propriétaires qui sont pauvres. C'est pas que les ouvriers.
Absolument.
C'est qu'il y a quelques très grandes maisons, mais vous racontez aussi tous ces agriculteurs indépendants qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts.
Absolument, qui sont eux-mêmes pris en fait dans le piège de la grande distribution, des prix en fait à l'hectolitre qui sont fixés essentiellement par des courtiers, par des négociants, ce qu'on appelle la place de Bordeaux, qui est une place qui existe depuis le XVIIe siècle. Et il faut voir que la ville de Bordeaux, quand même, elle fait du business avec le vin depuis des siècles, c'est pas nouveau. Donc tout ça, en fait, effectivement, vient appauvrir des personnes qui, pourtant, fournissent le vin de base, qui va ensuite être mélangé et qui sera ce fameux vin bas de gamme qui va alcooliser 10% de la population française.
Et on t'en rappelle qu'il faut le boire avec modération. non, mais l'alcoolisme est une vraie saloperie.
Et que le vin est un alcool comme les autres, même si c'est un grand symbole et un grand symbole de l'identité française, ça reste un alcool comme les autres.
Vous aviez vu Mondovino ? Le film ou pas du
oui,
tout, vous
mais...
l'avez revu pour ça? Non, c'est
non,
pas c'est pas vraiment le même nom que vous, c'est
ça
pas
fait
vraiment
longtemps,
le même nom que
oui,
vous.
Oui, oui,
mais il y a des points communs avec je sais pas si vous rappelez dans Mondovino, ce gars qui est de Bourgogne, on est dans la Bourgogne qui est très tradie, qui est un peu à l'ancienne. Et là, il y a aussi un peu ça chez vous avec ce monsieur qui est revenu élevé, qui est revenu, qui a repris un château, qui dit moi je fais ça doucement comme on a toujours fait, qui refuse les intrants
chimiques, ouais. Il y a des gens qui résistent dans le Bordelais. Il y a des gens qui refusent de rentrer dans cette production
hyper financiarisée, en fait.
Voilà, c'est ça, et surtout de spéculation. Il y a des gens qui veulent faire du vin et en vivre correctement, et pas plus, en fait. Et si possible, en biodynamie, et pour pas empoisonner les gens qui vont boire leur vin.
En général, dans cette émission, on parle un peu de l'invité. Là, on n'a pas eu beaucoup le temps de le faire. Quels sont vos modèles en journalisme ? C'est à qui vous avez pensé en écrivant ce livre-là ?
Florence Aubenas.
On va rappeler, c'est la journaliste de Libération qui avait fait ce reportage magnifique dans le nord de la France et sur un bateau, j'ai oublié le titre.
Elle a été Quai d'Ouistreham. Elle s'est fait passer pour une femme de ménage.
Elle a été femme de ménage sur des bateaux de croisière, c'est ça.
C'est une démarche qui me plaît beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. Elle a été voir de l'intérieur en investissant elle-même ce rôle. Oui, je crois que c'est
un des... Vous auriez pu vous faire embaucher comme saisonnière ou pour vous, ça va trop loin, vous n'aviez pas envie?
Alors,
je ne reproche rien. Hein.
Non, c'est-à-dire que depuis que j'ai un enfant, c'est un petit peu plus compliqué.
Oui, bien sûr.
Mais si j'avais eu peut-être 10 ans de moins, j'aurais peut-être fait une démarche de cet acabit-là, oui, c'est possible.
Et vous savez sur quoi sera votre prochaine enquête?
Non, je ne peux pas vous
le dire
encore.
Mais vous savez, vous, peut-être, même
non,
si vous ne nous le dites pas.
Non, je ne le sais pas encore. Bah, écoute... j'ai rien de prévu, mais... On verra.
Donc je rappelle, vous appelez Iskel de la Porte. Votre livre s'appelle Les raisins de la misère. C'est une enquête sur la face cachée des châteaux bordelais. C'est un très bon exercice de prononciation. Et par ailleurs, c'est une enquête donc, qui est apparue à la Brune Auerberg. Merci beaucoup d'être venu à Radio Campus Paris aujourd'hui, Iskel.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter La Relève, épisode 3, saison 3, une émission proposée et présentée par Christophe avec à la réalisation Antonin. Comme l'an dernier, vous pourrez retrouver l'émission sur notre page Facebook, La Relève, sur Radio Campus Paris ou sur le site de radiocampusparis.org, rubrique La Relève. Merci de nous avoir écoutés. Et à dans 335 heures, d'ici là, vous restez à l'écoute de la nouvelle grille de Radio Campus Paris et vous retrouvez à 19h la matinale. Au revoir.